J'avais pensé trouver d'abord une locomotive pour traverser l'Hindoustan, mais par ailleurs, je ne voulais pas abandonner mon bateau, auquel j'étais attaché, d'autant que je n'étais pas sûr d'en trouver un de cette qualité à Calcutta. Je ne tenais pas non plus à abandonner mon auto, que j'avais embarqué à bord grâce au cabestan. J'allais quand même sur la côte ouest. Tout le rivage nord de la mer d'Arabie a en cette saison une odeur qui se répand au loin sur la mer. C'est l'odeur délicate des pays de rêve, douce à respirer au lever du jour, comme si la terre était toute parfumée et le ciel son haleine. Cependant, au cours de ce voyage, je dus subir, du commencement à la fin, 27 tempêtes, plus terribles les unes que les autres, et même 28 si je compte celles qui survint au large des Carolines. Mais je ne veux pas parler de ces fureurs. Elles sont trop inhumaines, et si j'en suis sorti vivant, malgré mes secrets espoirs d'une destruction totale, quelqu'un ou quelque chose peut en témoigner. Je veux tout de même faire remarquer ceci que j'ai bien noté. Les éléments sont possédés d'un tempérament de plus en plus turbulent une fois déchaînés, et cette impétuosité augmente sans cesse. Les tempêtes ont des colères épouvantables, et la mer ne connaît plus de limite à sa fureur. Quand il tonne, le tonnerre gronde chargé d'une haine dont je n'avais jamais été témoin, éclatant d'un bruit formidable comme s'il voulait fracasser la voûte azurée, rebondissant sous le ciel en vociférant avant de dévorer tout ce qui se présente. Une fois à Bombay, trois fois en Chine, je fus secoué par des tremblements de terre à faire sombrer la raison d'un homme. Pourquoi cela, mon Dieu ? J'ai entendu raconter il y a longtemps, je m'en souviens, des histoires de la prairie américaine qui avait de tout temps été dévastée par de formidables tornades, mais qui devinrent de moins en moins violentes au fur et à mesure que les hommes prirent possession de cette terre. Si cela est vrai, il faudrait penser que la présence de l'homme subjugue ou magnétise la turbulence innée de la nature. Aujourd'hui, l'absence de l'homme a changé les choses. Je pense que, d'ici à 50 ans, les forces telluriques seront si peu contraintes qu'elles bouleverseront n'importe quoi à leur choix. Ce globe deviendra le terrain de jeu sans limite de l'enfer, le théâtre d'incommensurables commotions comme celles observées sur la planète Jupiter. La terre est tout entière dans mon cerveau. Ô mer à l'esprit sombre, pleine de désirs insatiables, de regrets, de douleurs glacées, de sommeil comateux, pleine de la destinée future, ô mer, et moi, pauvre homme, bien que monarque absolu, je témoigne de tes épouvantables chagrins. Toute ma pensée va vers toi, je n'arrête pas de méditer et de méditer encore. C'est une obsession qui ne me quitte jamais, je crois, depuis cette croisière en Orient, car Dieu seul sait ce que la terre nous réserve, et au cours de mes méditations, j'ai eu quelques visions de l'avenir. Pour autant qu'un homme peut voir avec ses instruments charnels, il n'a plus qu'à lever les bras et à tourner en rond avant de se jeter dans un tourbillon frénétique, car une telle vision donne le vertige. Si seulement je pouvais m'arrêter pendant une heure de penser à cette terre. Mais je suis son enfant. Ma pensée est en elle et pousse comme les rameaux du banyan qui descendent jusqu'au sol pour prendre racine. Elle nourrit ses rameaux et les tient attachés à elle comme la gravité me tient attaché au sol. Je ne peux m'arracher à son emprise car elle est plus forte que moi. Je sais qu'à la fin, mon âme se précipitera à sa perte comme les oiseaux de mer se jettent sur les lumières des phares, et que j'irai m'écraser contre sa poitrine sauvage et puissante. Toute une nuit pendant laquelle je ne pus fermer l'œil, je fus obsédé par ce golfe du Mexique, dont le creux est identique à la protubérance de l'Afrique sur le bord opposé de l'océan. De même, la protubérance du Brésil peut se loger dans le creux de l'Afrique. Il est donc évident, absolument évident pour moi, que ces continents formèrent un tout et qu'en une nuit ils ont été séparés et se sont éloignés à grande distance l'un de l'autre. Le sauvage Atlantique était prévenu et il s'est précipité furieusement entre les deux. Si un œil était là pour voir, si une oreille était là pour entendre ton oraison solitaire, ce ne pouvait être que ton œil et ton oreille, mon Dieu. Et si, de nouveau, ils se rassemblent après un si long divorce? Mais la fureur est là, on ne peut pas s'empêcher de penser. Elle remplit mon âme et l'absorbe avec tous ses mouvements d'humeur et ses manières d'être. Elle a ses idées, ses secrets, ses plans. Il est étrange que l'Europe et l'Asie aient un schéma identique. Chacun de ces continents montre au sud trois péninsules qui sont trois jumelles, l'Espagne et l'Arabie, l'Italie avec la Sicile et l'Inde avec Ceylan, la Morée et la Grèce séparées par le golfe de Corinthe, la péninsule malaise et l'Arman séparées par le golfe du Siam. Chacun a deux péninsules au nord, orientées vers le sud, la Suède et la Norvège, la Corée et le Kamchatka. Chacun a deux îles jumelles, l'Angleterre et le Japon. L'ancien continent et le nouveau ont, l'un et l'autre, une presqu'île orientée vers le nord, le Danemark et le Yucatan. Le Danemark ressemble à un index avec un ongle long, le Yucatan à un pouce, montrant le pôle. Que veut dire la nature? Est-elle une entité vivante, ayant une volonté et un destin, comme le marin le pense de leur navire? Et cette chose qui tourbillonne dans l'Arctique, tourbillonne-t-elle encore là-bas dans sa ténébreuse ardeur? Il est étrange que tous les volcans soient au bord de la mer. Je ne sais pourquoi. Ce fait, s'ajoutant au fait des explosions sous-marines, permet de soutenir la théorie chimique des volcans. Elle suppose que la mer s'infiltre dans des ravins où se déposent les matériaux constituant le combustible des éruptions. Mais cela est-il vrai? Les volcans les plus élevés sont intermittents. Ils attendent patiemment pendant un siècle, trois siècles, dix siècles, et soudain, leur éruption réduit au silence pour toujours quelques malheureux pays. Les plus petits sont constants. Ils constituent parfois une chaîne qui forme un passage comme la cheminée d'une fonderie souterraine. Qui peut connaître les raisons de la nature? Dans la montagne, une série de pics dénote la présence de dolomites. Des sommets arrondis signifient des rocs calcaires. Les aiguilles sont le fait de schistes cristallins. Mais pourquoi? Je connais la Terre jusqu'à une profondeur de 15 000 mètres, mais comment savoir si, à 800 000 mètres, elle est faite de flammes ou de petits plombs, si elle est dure ou molle? Vraiment, je ne sais pas. La méthode qu'elle utilise pour former le charbon, les geysers, les sources sulfureuses, les pierres précieuses, les atolls et les récifs de corail, les rocs sédimentaires comme le gneiss, les rocs plutoniques, les rocs de fusion et le moellon non stratifié qui constitue la base de la croûte terrestre, et les champs et la flambée des fleurs, et le passage du végétal à l'animal. De tout cela, je n'ai aucune idée. Mais c'est la nature qui fait ces choses, et nous sommes fondus dans le même moule, pareil à son cœur écarlate. La terre est sombre et capricieuse, vive et maléfique. Elle déchire ses petits comme un chat cannibale. Elle est vieille et secrète. Elle se souvient d'Ur en Chaldée, fondée par Uruk, comme du premier mouvement des protozoaires, aussi bien que du temple de Baal. Elle porte encore sur elle comme une chose récente la vieille Persépolis et le tombeau de Cyrus, le pays d'Aran et ses temples Vihara taillés dans la roche de l'Himalaya. En voguant de l'Orient vers mon pays natal, je m'arrêtai à Ismaïlia et au Caire. Je vis Memphis et je rêvai à minuit devant la pyramide et le sphinx silencieux. Je m'assis dans une tombe jusqu'à ce que des larmes de pitié me coulent sur les joues, car l'homme passe. Ces tombes de pierre ont des colonnes qui ressemblent beaucoup aux deux piliers de mon palais, mais celles-là sont rondes tandis que les miennes sont carrées. Cependant, près du sommet, c'est le même bandeau orné de fleurs de lotus, la même plinthe qui sépare les colonnes de l'architrave, sauf que mes piliers n'ont pas d'architrave. Les tombes elles-mêmes comprennent un atrium et un puits à l'extérieur. La chambre du mort est à l'intérieur. Je restais là jusqu'au moment où j'eus faim. De plus en plus, la terre me domine, m'appelle, m'assimile, et je me pose cette question. Ne dois-je pas, dans quelques années, cesser d'être un homme pour devenir un morceau de terre, une copie de la terre ? Comme elle, fantastique et féroce, à moitié démoniaque, à moitié doucereuse, morose et turbulente, pleine de fantaisie, de folie et de tristesse. Au cours de ce voyage, je perdis un mois aux îles Andaman, proche de la Malaisie. Après tout, l'idée qu'un vieux Chinois vivait encore à Pékin me semblait relever de la plus haute fantaisie, tandis que ces îles touffues et ensoleillées me ravissaient. J'y accostai après une immense orgie nocturne à Calcutta. J'avais non seulement incendié la ville, mais aussi le fleuve. Ces îles me plaisaient même tellement que j'eus un moment l'intention de m'y établir. J'étais sur l'une d'elles, appelée Saddle Hill, et j'éprouvais, comme rarement, un si parfait sentiment de paix que je demeurai toute une journée couché dans une vallée profonde à l'ombre de la forêt tropicale en surveillant le Speranza sur son mouillage. La vallée prolongeait une baie dont je pouvais voir une pointe bordée de cocotiers. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel, sauf une légère ligne d'ombre à l'horizon. La mer, légèrement agitée par le vent, avait l'apparence d'un lac, bien qu'elle fît un bruit énorme en se brisant le long de la côte, comme j'ai pu le remarquer en ces sortes d'endroits, je ne sais pas pourquoi. Les habitants des îles Andaman semblent avoir vécu à l'état sauvage. J'en rencontrai plusieurs en parcourant l'île, réduits à peu près à l'état de squelette. Toutefois, leurs membres étaient encore soudés les uns aux autres, et dans certains cas, ce qui leur restait de chair était momifié. Ils n'avaient pas le moindre lambeau de vêtements, chose assez curieuse si l'on considère qu'ils vivaient à proximité de vieilles civilisations. Ils semblaient petits, la couleur de leur peau était assez sombre, et je n'ai jamais vu un homme qui n'ait eu près de lui une lance. C'est dire que, malgré leur amabilité naturelle, ces primitifs ne manquaient pas d'une bonne dose de malignité. J'étais si satisfait de ces gens que je ramenai à bord du Speranza un de leurs petits canots taillés dans un tronc d'arbre. Ce fut une sottise, car 3 jours plus tard, la yole et le canot furent arrachés du pont et partirent à la mer. Dans le détroit de Malacca, entre les îles Andaman et la pointe sud-ouest de Bornéo, je fus tellement malmené par la mer qu'il semblait parfois qu'aucun objet construit par la main de l'homme ne pouvait résister à un tel cataclysme. Je m'abandonnai, non sans me faire d'amers reproches, à l'idée de périr obscurément. Mais quand le cyclone fut passé, j'écartai mon défaitisme en me disant « Puisqu'on s'efforce de m'abattre, je me révolterai jusqu'à la mort ». Les semaines suivantes, dès que j'apercevais quelque charmant village ou quelque paysage doucement ombragé, je mouillais l'ancre et je débarquais à terre mon matériel de destruction. C'est pourquoi tous ces pays embaumés au nord de l'Australie porteront la trace de mon passage pendant plusieurs années. Je voyageais en zigzag, au gré de n'importe quel caprice, ou bien en posant le doigt n'importe où sur la carte. Je songeais à mâchonner le lotus de la paresse et le népenthès enchanté dans quelque coin de ces îles de rêve. Là où je planterais ma tente, je pourrais voir, à travers les fumées opalines de l'opium, l'eau d'une lagune jaillir paresseusement par-dessus l'atoll de corail. Le cocotier languirait ensommeillé, et l'arbre à pin murmurerait doucement, tandis que je surveillerais le Speranza à l'ancre, au milieu de l'atoll transparent, pendant des années. Je finirais par me demander à quoi il servait, d'où il venait, et pourquoi il reposait sur l'eau pour toujours. Après une époque indéterminée de paix mélancolique, je remarquerai que le soleil et la lune ont cessé de bouger et restent suspendus en l'air, ouvrant de temps en temps un œil, puis s'assoupissant de nouveau. Alors Dieu poussera un soupir qui signifiera « assez » et il inclinera la tête. Quant à l'idée qu'un vieux Chinois vivait encore à Pékin, c'est la dernière des folies. Il m'arrivait d'éclater d'un rire sardonique en y pensant, puis de défaillir. Pendant 4 mois, de juin à octobre, je visitai les îles Fidji, où je vis des têtes qui avaient conservé leurs touffes de cheveux raides. À Samoa, les crânes étaient couronnés de coquilles de nautiles, et dans un petit village, une assemblée de cadavres permettait d'imaginer une réunion de fête. On peut donc penser que ces populations furent victimes de la catastrophe qu'aucun présage n'avait annoncée. Les femmes maoris se parent d'innombrables colliers de jade, et je découvris une curieuse sorte de conque marine, dont j'ai conservé un échantillon, ainsi qu'une aiguille à tatouage et un bol de bois joliment sculpté. Les habitants de la Nouvelle-Calédonie vivent nus et n'ont de soins que pour leurs cheveux. Il semble qu'ils portent une perruque artificielle, faite de la fourrure d'un animal, probablement celle d'une chauve-souris. Ils avaient des masques de bois et de grands anneaux d'oreilles qui devaient leur arriver à l'épaule. La nature qui les environnait de toutes parts les rendait sauvages et capricieux comme elles. J'allai d'un endroit à un autre, sans méthode aucune, à la recherche d'un lieu de repos idéal. À plusieurs reprises, je pensais l'avoir découvert, puis je m'en fatiguai, espérant toujours trouver plus d'enchantement et de rêverie. C'est au cours de mes recherches que je reçus un choc qui me découragea et m'obligea à quitter ces îles. Le soir du 29 novembre, je dînai tard, à 8 heures, assis, selon mon habitude, par temps calme, sur le tapis, à l'arrière de la cabine, du côté tribord. J'avais devant moi le demi-cercle d'or du Speranza, et au-dessus de moi, le réservoir conique rouge et vert de la lampe, dont les craquements ne cessaient jamais, même sur l'eau la plus tranquille. Sur le plateau était étalé tout un assortiment de soupes, de viandes, de fruits, de gâteaux, de vins, de noix, de liqueurs. La cafetière était posée sur un réchaud. J'avais la manie de sortir tout cela dès le matin de la cambuse, et de le disposer une fois pour toutes. Je dîne généralement à 7 heures du soir, mais toute la journée, j'avais mis de l'ordre dans le bateau, tâche que je remettais sans cesse, et cela m'avait retardé. J'avais donc passé un filin au goudron, peint un bord, graissé une manivelle, rempli les 3 lampes de la cabine, frotté une poignée de porte, une garniture de cuivre, nettoyer les miroirs, laver le pont à grande eau, puis j'avais grimpé en haut du mât de misaine pour resserrer le gréement détendu qui avait beaucoup travaillé depuis un mois. Je fis tout cela vêtu d'un de mes caleçons de coton, sous mon camis flottant, pieds nus, la barbe nouée en tresse. Le soleil brûlait, la mer était calme et transparente, de cette pâleur légère qu'elle a dans les courants rapides. Le bateau était tranquille, il n'y avait pas de terre à proximité, on voyait seulement des bancs d'algues assez importants courir vers l'est. Je travaillais de 11 heures du matin à 7 heures du soir. Quand la nuit tomba, brusquement, je dus m'arrêter. J'avais voulu mener à bien toute cette tâche en un seul jour, et j'étais très fatigué quand je descendis dans la cabine. J'allumai le plafonnier et mes 2 lampes, me changeai, et aller dîner au salon. Je mangeais avec voracité et la transpiration, comme d'habitude, dégouttait de mon front. Je me servais toujours d'un couteau ou d'une cuillère que je tenais dans la main droite, mais jamais je n'utilisais la fourchette occidentale. Je léchais les plats comme les mahométans et je buvais à ma guise. J'étais encore fatigué après ce repos et je montai sur le pont où j'avais installé mon fauteuil devant le gouvernail. Un de ses bras était brisé et le velours bleu était usé jusqu'à la corde. Je me reposai là, fumant cigare sur cigare, à moitié endormi, mais conscient de ce qui se passait autour de moi. La lune se déplaçait dans un ciel presque sans nuages. Elle brillait, mais pas assez pour faire concurrence aux flots lumineux de l'océan. Cette nuit-là, la mer n'était qu'une vaste étendue phosphorescente, un remue-ménage de feux follets enflammés, un rendez-vous d'étoiles et d'éclairs. On eût dit un rassemblement général et urgent en vue d'un événement de dernière importance. La rapidité du courant entraînait tout cela en direction de l'est. Dans ma somnolence, je pouvais entendre l'eau battre contre le gouvernail et clapoter sous la poupe en poussant des cris de gorée qu'on égorge. Je me rendis bien vite compte que le bateau, comme s'il était pris dans la procession, dérivait avec une inquiétante rapidité, à la vitesse de 6 nœuds environ. Je ne m'en inquiétais pas trop, sachant qu'il n'y avait pas de terre à moins de 200 miles. J'étais au 173e degré de longitude, à la latitude des Fidji et des îles de la Société. Au bout d'un moment, le cigare vacilla et tomba de mes lèvres. J'avais terriblement sommeil et je m'endormis dans le giron de l'immensité. Quelle est cette chose qui me protège? Quelque chose? Quelqu'un? Et pourquoi? Si je ne m'étais pas endormi dans la cabine, j'aurais certainement péri. Enfoncé dans mon fauteuil, j'eus un rêve, le même que je fis une fois là-bas, au-delà des neiges hyperboréennes. Je rêvais que j'étais dans un paradis arabe, mais j'en avais une vision différente. Je me promenais parmi les arbres et je cueillais des pêches que je portais à mon nez. J'en respirais l'odeur avec passion, mais un malaise m'éveilla. Quand j'ouvris les yeux, la nuit était sombre, la lune était basse, tout était humide de rosée. Le ciel ressemblait à une jungle d'étoiles. C'était un bazar de maharaja portant la tiare et de bégums avec des traînes aux couleurs criardes. Il y avait comme une fatalité dans l'air. Très haut et largement déployés dans le ciel, 8 ou 9 nuages de fumée couraient du nord au sud. Ils étaient enflammés comme s'ils sortaient d'une forge terrifiante où les cyclopes travaillent toute la nuit. J'ai dit 8 ou 9 nuages. Il y en avait peut-être 7, peut-être 10, je ne les ai pas comptés. Il s'en exhalait de temps à autre des bouffées d'une matière cramoisie en même temps que des volutes de vapeur pailletée. Tout cela scintillait parsemé d'éclairs dans une brume flamboyante. Cette fonderie était au travail, mais s'activait mollement. Cependant, le Speranza, poussé par le courant de la mer phosphorescente, se dirigeait droit sur un îlot rocheux qui n'était pas signalé sur la carte et que j'aperçus à 100 de mètres de distance. En voulant me lever, je tombai par terre, et ce que je fis ensuite fut tellement incohérent que, pour un esprit sain, cela tient de l'irréalité d'un rêve. J'ai l'impression d'avoir immédiatement pris conscience que ces parages étaient empoisonnés par des émanations délétères, cause de la destruction des organismes humains. Je pris conscience aussi que j'approchais des roches. J'ai sans doute rampé jusqu'à l'avant du bateau. J'ai eu une vague impression que l'îlot était de couleur pourpre, comme fait de porphyre pur. J'ai le souvenir confus d'avoir entendu la longue rumeur des brisants contre les rocs et d'avoir fait des efforts désespérés pour vomir tout ce que j'avais dans les entrailles. Je me souviens aussi que j'étais sur le dos quand je manœuvrais l'embrayage dans la salle des machines, mais je n'ai aucune idée de la manière dont j'ai descendu l'échelle, ni comment je suis remonté. Heureusement, la barre était saisie à tribord, et le bateau, en courant de l'avant, aurait de toute façon évité l'écueil. J'ai pu gagner l'arrière à temps pour libérer le gouvernail, car, une fois que j'eus repris mes sens, je me retrouvai étendu sur le pont, la tête contre un balancier, un genou accroché à un rayon de la roue du gouvernail. Aucune terre en vue, le soleil brillait. Cela me rendit si malade que pendant 2 ou 3 jours, je restai sans manger, étendu près du gouvernail, me relevant de temps à autre pour voir si le bateau faisait route vers l'ouest, fuyant ces parages. Le matin où je me sentis complètement rétabli, je me demandai si 2 jours ou 3 jours s'étaient écoulés depuis ces heures d'angoisse. Bien que mon calendrier fût impeccablement tenu, je pouvais avoir sauté un jour dans mon désarroi. Aujourd'hui, par exemple, est-ce le 10 ou le 11 mai ?